Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 2 avril 2014, c'est la 29e édition. Aujourd'hui des invités, comme ils sont nombreux, Gérald est certes présent, Christophe Rollin au micro, comme tous les mercredis. Il est d'ailleurs l'heure, j'indique l'heure généralement au début d'émission, oh là là, on a un peu dépassé le créneau horaire habituel, nous commençons à 14h, il est 14h02 à peu près. Frédéric Constant est avec nous, ainsi que, mince, je mange encore son nom, c'est Céphiz, elle vous indiquera tout à l'heure qui elle est. Ces deux personnes sont Frédéric Constant est metteur en scène et acteur dans cette pièce. Céphiz est forcément actrice puisque c'est un personnage de la pièce Andromaque qui est mise en scène actuellement au Théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé hier le mardi 1er avril et c'est prodigieux. Ça va se prolonger sur une dizaine de dates jusqu'au vendredi 11 avril. C'est à 20h. Le spectacle est un peu dense. Il dépasse les 2h. Il n'atteint pas, je crois, totalement les 3h. Nous en parlerons pendant toute cette émission avec donc ces deux invités. Gérald posera des questions également. Peut-être même qu'il y aura des interventions de Sonia, ou alors ce sera notre invité mystère, elle ne dira peut-être rien. Nous commençons avec une introduction pour à la fois cette pièce, Andromaque, et puis aussi pour l'invité, Frédéric Constant, un morceau de Joséphine Baker, qui a été dans d'autres spectacles. Ça va nous faire sûrement la matière d'une première question, Frédéric Constant, mais pourquoi ce choix de Joséphine Baker? Il pourra se présenter, ainsi que Céphiz, pendant toute cette émission jusqu'à 15h. Vous êtes bien sûr Radio Canu, vous avez tout à fait raison, c'est le 102.2 de la bande FM à Lyon et le radiocanu.org. Nous écoutons Joséphine Baker et nous continuons avec notre entretien et une première partie de portrait.
Rappelle-toi.
C'était Joséphine Baker qui chantait de temps en temps je ne sais pas comment nommer cela, un morceau, une musique d'introduction pour la pièce, pour l'émission aujourd'hui spectaculaire, pour la pièce Andromaque, dont Frédéric Constant est le metteur en scène. Et c'est ce que j'indiquais déjà tout à l'heure. Je lui disais une première question. Pourquoi cette musique? Alors, il est accompagné de Maude Narboni, qui incarne ses fils dans cette pièce Andromaque, qui est mise en scène. La première était hier, mardi 1er avril, et ça continue sans relâche. Non, il doit y avoir quand même une relâche jusqu'au vendredi 11 avril.
Lundi
relâche, c'est à 20h tous les soirs. Et avant de parler donc plus précisément d'Andromaque, de Pyrrhus, d'Oreste, d'Hermione, de Cléone aussi, c'est toujours intéressant ces seconds rôles, Phénix et puis Pylade, eh bien, tout d'abord, qui sont donc les invités pourquoi sont-ils venus? C'est pour parler d'Andromaque, mais pourquoi? Enfin, qui sont Maude Narboni et qui sont Frédéric Constant? Faisons-nous les galants, laissons-nous d'abord la parole à Maude Narboni, Frédéric Constant qui a une double casquette en plus, acteur et metteur en scène dans cette pièce. Et, alors, puisqu'il aura sûrement beaucoup à dire, on va commencer avec Maude qui en plus c'est terrible. Meurt presque en scène. On le dira tout à l'heure, ou alors on ne le dira pas. Non, zut, c'est une.
Mais non, mais là, c'est
non.
Pas
ah mince, c'est tout. Mais ça ne se produit pas en direct.
En direct,
ah
oui, voilà, c'est ça.
Je couperai ça, on fera un montage avant de mettre l'émission en podcast sur le blog. Bon. Maude, je vous en prie, votre parcours, est-ce que ça se passait bien dès le CP, voilà, c'est ça. Ah, là, est-ce que vous aviez des bons bulletins en troisième, au quatrième, au troisième trimestre? Bref, je vous en prie. Vous sortez, je crois, d'une ville du sud de la France.
Non, pas parler de ça tout de suite quand même. J'ai honte. Donc, oui, je m'appelle Maude Narboni, je suis comédienne. Et oui, en effet, depuis 8 ans, j'habite Marseille, qui vient de s'illustrer avec les élections. Et hélas, le Front National est passé dans le 7e secteur. C'est pas là où j'habite, mais donc Menucci a pris une claque monstrueuse dans mon arrondissement. Et dans les autres.
Vous dire que le PS dans cette région de la France n'a pas très bonne réputation.
Non, c'est ça. C'est
au niveau national, c'est pas brillant non plus.
Vos études, donc, étaient-ils à Marseille? Je parlais du collège tout à l'heure, mais enfin, ou la suite, l'université, ou je ne sais pas quelle école.
Je suis née à Besançon en 1812, un jour de grand froid.
Une Byzantine, voilà. Comme Victor Hugo, c'est ça?
Exactement.
Jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit dans Besançon, vieille ville espagnole, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix. Cet enfant qui n'avait pas un lendemain à vivre, c'était moi. Bon, j'ai coupé un peu.
Bravo.
Je vous en prie. Maude, alors, exactement. Donc, Besançon, puis ensuite un passage à...
Et puis après, je suis allée à faire mes études à Paris, et des études d'histoire, et après, j'ai fait une école de théâtre, l'ERAC, et après, j'ai travaillé pas mal dans l'Est, à Langres, Troyes, et puis à Paris aussi, et puis...
Travailler dans le théâtre et donc,
exactement.
Comédienne. J'ai dit acteur tout à l'heure, je crois que c'est plutôt comédien, c'est ça, pour le théâtre, et acteur, c'est pour le cinéma.
Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai fait des choses un peu engagées, puisqu'on est dans une radio libertaire, c'est peut-être l'endroit pour en parler. Donc des choses sur le droit des femmes, contre la double peine, voilà, des trucs comme ça.
Des spectacles, c'est-à-dire, ou des lectures
des spectacles, voilà. Et puis, j'ai tourné pendant 4 ans un spectacle sur Louise Michel, voilà. Donc, voilà, je reconnais un peu l'endroit.
êtes-vous comédienne uniquement, ou avez-vous également, je disais tout à l'heure de Frédéric Constant, une double casquette? Oui, je suppose que si vous avez fait ces spectacles sur Louise Michel, est-ce vous qui les aviez écrits?
Non, j'ai fait un peu de dramaturgie, j'ai fait un peu d'écriture, mais j'ai fait beaucoup de co-mise en scène. J'ai pas fait de mise en scène toute seule encore, j'ai pas acheté cette casquette, je vais m'en procurer une.
Mais cela vous intéresserait?
Oui, ça m'intéresse, bien sûr. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai travaillé longtemps avec Catherine Marnas, qui était à Lyon pendant un grand temps aussi. J'avais joué à la Croix-Rousse dans Fragments Coltès en 1875, non, 1999-2000. Et voilà, et c'était un chouette spectacle. Et voilà. Et je connaissais Catherine Pietri, qui jouait Hermione. Et je connaissais un peu le travail des affinités électives et j'avais très envie de travailler avec eux. Et voilà, le jour est arrivé. Voilà.
Alors, les affinités électives, c'est le nom de la compagnie fondée par Frédéric Constant ou disons créé ou je ne sais. La parole est à vous maintenant. Pourriez-vous nous parler bien de vous-même, certes, puis de ses affinités électives. C'est le nom, c'est ça, de cette compagnie.
Voilà, les affinités électives, c'est une compagnie qu'on a créée en 1997 avec Catherine Pietri, qui joue en effet dans le spectacle le rôle d'Hermione, et puis Xavier Morel, qui est souvent dramaturge sur les spectacles et aussi un metteur en scène, et qui là, en plus, nous a accompagnés sur le spectacle, parce que ce qui était un peu compliqué pour moi, c'était que je faisais la mise en scène et que je jouais aussi dans le spectacle. Donc il y avait un moment où je ne pouvais pas me dédoubler, et donc Xavier est venu travailler avec nous pour essayer de faire le regard extérieur dans les moments où j'étais à l'intérieur.
Affinité élective, ce nom, est-ce qu'il vient de vous ou est-ce que qui l'a trouvé?
On s'est un peu mis d'accord au moment.
Surtout le sens. Je vous pose une question sur l'origine, mais bon, le sens plutôt. Vous me disiez tout à l'heure.
Le sens, en effet, il est double. En fait, le sens premier, c'est un sens de chimie, c'est-à-dire qui dit que deux corps chimiques mis en présence peuvent se modifier, soit créer un corps unique, soit créer plusieurs autres corps parce que il y a une modification de leur structure et moléculaire. Et donc, c'est de ce terme chimique ancien que Goethe est parti pour raconter et dire que c'était la même chose chez les êtres humains. Et donc, écrire son roman qui s'appelle Les Affinités électives. Et c'est donc, nous, on a en effet pris ce terme de chimie parce qu'on se disait que, justement, on était plusieurs personnes qui, une fois réunies ensemble pour travailler, allaient créer un objet particulier dû à la réunion de ces personnes-là, et ça aurait été un autre spectacle si c'était d'autres gens qui l'avaient fait, voilà. C'est le propre même de la vie et du théâtre.
Avec une quête alchimique ou pas, à la clé?
Avec une...
Une quête alchimique?
Il y a toujours, un petit espoir que quelque chose se produise, c'est-à-dire que les gens ressortent de là différents, mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas produit. Ou alors, ils ne l'ont pas dit.
Ou alors, mythologique, à la Midas, Midas Touch, transformer le plomb en or. Frédéric Constant, avant cette compagnie, qu'est-ce que vous avez fait? Quel petit élève étiez-vous? Peut-être pas tant grande section de maternelle, ça c'est quand même un peu vieux, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Êtes-vous également passé par une école, cette ERAC à Paris, ou je vous en prie?
Eh bien, en fait, je viens du Loir-et-Cher, dans la région centre, et puis après mon baccalauréat, je suis allé à Paris faire des études au départ de cinéma, parce que je voulais être réalisateur de cinéma. Et puis, en même temps, j'ai pris des cours de théâtre, parce que je voulais voir comment ça marchait un acteur, puisqu'en fait, moi, mon modèle, c'était François Truffaut. Donc, je me disais, voilà, je vais jouer dans certains de mes films. Et puis, bon, tout ça ne s'est pas fait, bien sûr. Mais en revanche, en prenant des cours, il y a quelque chose qui m'a attiré vers le théâtre, parce que j'ai eu l'impression que c'était plus rapide à l'époque de monter une pièce de théâtre que de faire un film, parce que tout coûtait très cher. Aujourd'hui, ça va beaucoup changer avec la vidéo. Au fond, maintenant, on peut plus facilement faire un film. J'ai fini par rentrer au conservatoire à Paris, et puis j'en suis sorti, j'ai fait l'acteur, avec des metteurs en scène différents, et puis tout à coup j'ai eu envie d'avoir la main mise sur un projet, et c'est là que j'ai commencé à vouloir faire de la mise en scène, et donc de créer une compagnie et de faire des spectacles qui ne sont pas tous comme l'Andromaque qu'on joue en ce moment, puisque jusqu'à maintenant avec la compagnie nous n'avons fait que de la création contemporaine. En fait, c'est la première fois qu'on monte un texte déjà écrit par quelqu'un d'autre.
Ah, et alors c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas pu vous empêcher au début d'introduire autre chose que le texte lui-même. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais c'est très intéressant, une première dimension. Ouais.
Oui, il m'arrive d'écrire, mais moi j'écris pas comme un auteur, c'est-à-dire qui se met à sa table et puis qui se dit voilà, acte 1, scène 1, ça commence et ça parle. Voilà. Moi j'écris des bouts, en fait, parce que les spectacles sont fragmentés, donc j'écris des bouts. Xavier Morel écrit d'autres bouts, et puis des fois on pique dans la littérature d'autres bouts, et voilà. C'est plutôt du montage et du collage que de l'écriture véritable.
J'ai deux petites questions. Vous parliez, vous avez dit, je voulais faire ou être un réalisateur. Est-ce vraiment terminé cela, ou est-ce que ça pourrait encore venir? Enfin, tout de même, vous n'êtes tout de même pas un homme
mort.
Un homme.
Non, bien
un
sûr.
Senior ou je ne sais, à la fin de sa vie, il vous reste quand même encore de belles années, hein, je pense.
J'espère. J'espère en effet. Non, c'est pas fini, mais c'est très, très, très compliqué. Si, peut-être que tout à coup, se dire repartir à zéro, c'est compliqué, mais c'est vrai que j'y pense beaucoup parce qu'aujourd'hui, où nous, il se trouve qu'on met un peu de vidéos par moment dans les spectacles, et quand même, je me dis, il nous faut pas beaucoup de matos pour réussir à faire quelque chose qui se tienne un peu debout, alors c'est vrai que j'hésite à vraiment passer le pas et de se dire, allez, on va faire un film avec les moyens du bord et on se débrouillera après. C'est juste parce que je suis dans l'hésitation de franchir le pas. Et donc, tant que je suis dans cette hésitation, je me dis peut-être que je ne franchirai jamais le pas. Et en effet, je le ferai pas. Mais ça me plairait, je crois, oui.
Ce modèle que vous vous donniez, François Truffaut, il commence critique, c'est ça, au Cahier du cinéma. Mmh. Et il devient réalisateur à quel âge, vous le savez? Une quarantaine d'années, non? Même davantage? Un peu moins,
j'en
peut-être
sais rien. Je ne sais pas du tout.
Maurice Pialat, pareil, je crois, il devient réalisateur plutôt...
Ils sont plus jeunes, quand même. Avec Godard, il commence à bosser, je crois, des trucs, hein.
Oui, peut-être, je me trompe.
Non, oui, mais de toute façon, il n'y a pas d'âge.
Oui, non, mais
on peut tout faire à n'importe quel âge, en fait.
Les outils qui changent, il me semble. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos maintenant dans le théâtre depuis déjà 20 ans. Hein. Mm. Maintenant, il y a des concours de cinéma faits au portable.
Mm. Oui, oui, bien sûr.
Un excellent réalisateur qui s'appelle Mordeur, je crois, Joseph Mordeur, qui a été primé une année, c'était génial. On trouve en DVD à la part Dieu, d'ailleurs. Bon, bref, voilà, donc les outils changent, se mélangent. Moi, je connaissais un metteur en scène, Stéphanois, Philippe Vincent, qui travaille beaucoup avec la vidéo. J'ai eu Strindberg qui s'appelait là, j'ai oublié, un classique.
Et, merci Gérald, c'est l'autre question que je souhaitais poser, un peu de name dropping. Vous dites avoir travaillé avec quelques metteurs en scène, est-ce que vous pourriez égrener il y a un Italien, j'ai perdu son nom déjà, qui avait fait des mises en scène d'opéra ou alors le Strindberg, c'est ça, enfin quel super grand nom lancé dans le théâtre.
Non, moi j'ai travaillé avec avec un très proche d'ici qui était Georges Lavaudan. Moi j'ai travaillé deux fois avec lui, en plus, le spectacle dans lequel j'ai travaillé avec lui était un spectacle qui s'appelait Lumière, qui était très particulier, qui est sûrement un peu à la fondation même de mon travail, parce que c'était un spectacle très foisonnant, complètement hétéroclite et iconoclaste, et ça m'a donné vraiment l'envie de passer à la mise en scène. J'ai travaillé avec Dominique Pitoiset, qui a un nom un peu important du théâtre, Catherine Marnas aussi, ce qui nous relie avec Maud, et puis qui d'autre, et puis Jean-Pierre Vincent, ça c'est pour sortir un peu des noms un peu importants en effet du théâtre français, mais qui sont maintenant, avec tout le respect que je leur dois, non, pas Dominique Pitoiset ni Catherine Marnas, parce qu'ils sont encore vraiment dans le travail, mais pour ce qui est de Georges Lavaudan ou de Jean-Pierre Vincent, ils sont plutôt...
Ancienne génération.
Oui, En tout cas, ils ne sont plus aux affaires directement, puisqu'ils ne dirigent plus de lieu, ils sont retraités, ils font des spectacles parce qu'ils ont encore envie d'en faire, mais voilà.
Alors, même si elle se fait fort discrète, nous n'oublions tout de même pas Maud Narboni qui intervenait tout à l'heure. Votre rencontre, peut-être une dernière question avant de lancer plus précisément Andromaque. Comment cela s'est fait? Est-ce qu'on peut l'évoquer, hein? Une sorte de casting ou je ne sais, ou alors une rencontre comme ça, je cherche un avis, ou comment êtes-vous venu à incarner Céphise dans Andromaque, ou disons plus précisément, vous êtes d'abord entré dans les affinités électives, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu des spectacles de Frédéric et j'ai rencontré Catherine sur un spectacle de Catherine Marnas et on ne sait plus, donc on a beaucoup sympathisé, on est devenus amis d'un, et j'ai vu leur spectacle et je trouvais que c'était formidable et que j'avais envie de faire avec eux, d'être avec eux sur le plateau. Voilà.
Quel que soit le projet, parce que là, pour le coup, Andromaque.
Bah oui, parce qu'au départ, je ne savais pas. C'était dans l'absolu, je disais à Catherine, si jamais un jour, vous pensez à moi alors, Si jamais vous manquez quelqu'un, je serais ravie que ce soit moi qui vous manque. Et voilà. Et après, je ne sais pas exactement. Catherine m'a appelé, et après Frédéric, et voilà.
C'est vrai que c'est toujours. C'est toujours compliqué de faire une distribution. Et puis là, c'est vrai on avait travaillé avec les mêmes comédiens depuis un moment. On voulait renouveler un peu, l'équipe pour parce que je trouvais qu'on était rentré dans un peu un ronron. Et après, ben, en effet, il y a des gens qu'on a rencontrés, qu'on a croisés. On se dit, tiens, ce serait bien de tenter l'aventure. Là, c'est plus compliqué parce que les rôles sont assez inégaux. C'est vrai que, par exemple, pour le proposer à Maud, c'était difficile parce que ses fils, c'est vraiment le plus petit rôle de la pièce. Et donc, je peux comprendre que des comédiennes puissent dire, ou des comédiens puissent dire, oh non, là, passer plusieurs mois sur ça, ça va pas être facile, c'est long, tout ça. Mais Maud a dit, ouais, d'accord, on va le faire. D'ailleurs, on avait fait une petite expérience juste avant ensemble dans une abbaye à Noirlac où on avait mêlé du texte avec de la musique contemporaine en direct. Et Maud était venue dire un texte de Seishon Agon qui s'appelle, c'est un livre de chevet. En fait, c'est une dame de compagnie du 9e siècle japonais et qui avait fait un livre intime, un journal intime, et son livre a été volé, et depuis il a été édité depuis le 9e siècle. C'est un texte très très surprenant. C'est une accumulation de choses, qu'elle a ordonnées, en disant les choses qui donnent envie de pleurer, et puis elle cite comme ça les choses, puis elle raconte des moments de vie. Voilà.
C'est magnifique.
Nous sommes peut-être prêts alors à entendre ce morceau que je qualifierais également de magnifique, le Spiegel im Spiegel. Il me semble même que c'est un mouvement qui, parfois, je l'ai trouvé sous le nom de Alina. C'est de Arvo Pärt. Ça se trouve à la fin de la première partie, à la fin de l'acte 3. C'est juste avant l'entracte. Et cette douce musique, un petit peu long, nous couperons peut-être, va nous permettre de parler d'Andromaque, la pièce mise en scène ces jours-ci au Théâtre de la Croix-Rousse. Ça a commencé le mardi 1er avril, c'est encore jusqu'au vendredi 11. Nous écoutons cela et nous restons en compagnie de Frédéric Constant et Maud Narboni, acteur, comédien, metteur en scène dans cette pièce Andromaque. Et cela pourrait continuer, mais nous en restons là, de Arvo Pärt, le morceau Spiegel mi Spiegel, que j'ai parfois trouvé sous le nom de Alina. C'est ce que j'ai mis sur le blog, hein, puisque spectaculaire et complètement ponctuel dans les temps et tout ça. Il y a déjà un article, il y a déjà un compte-rendu du spectacle de la pièce Andromaque qui est mise en scène ces jours-ci au Théâtre de la Croix-Rousse, de ce mardi 1er avril hier jusqu'au vendredi 11 avril de la semaine prochaine, avec Frédéric Constant, comédien et metteur en scène, ainsi que Maud Narboni, également comédienne, et tous deux, c'est prodigieux, sont présents dans les studios de Radio Canu, dans l'émission spectaculaire. Et donc maintenant, la parole est, enfin comme d'habitude, hein, comme même depuis le début de l'émission, la parole est à eux pour parler plus précisément de cette pièce. Alors Frédéric Constant, un regard, peut-être un regard plus général, puisque vous êtes certes comédien, vous incarnez Pyrrhus, mais vous êtes également le metteur en scène. Et Maud Narboni, un regard peut-être plus, je ne sais pas comment le qualifier, plus intérieur, puisque vous êtes sur scène, même d'ailleurs vous sortez un moment, on ne va pas en dire plus, vous incarnez Céphise, un personnage que je trouve intéressant parce que c'est un second rôle. Il y a également Cléone, il y a aussi Pylade et puis Phénix, mais ces seconds rôles, un peu comme chez Molière, ils sont quand même assez importants. Ils permettent de faire dire davantage de choses, ils permettent beaucoup de possibilités. Le metteur en scène, tout d'abord, peut-être, Frédéric Constant, la pièce, quand elle commence, elle ne commence pas par le texte de Racine. Comment cela? Sacrilège? Et non, il y a une sorte de dimension, je ne sais pas comment la nommer, pédagogique ou explicative, ou pour resituer les choses, parce qu'Andromaque, qu'est-ce que c'est que cette pièce de Racine qui date de 1600 et quelques?
Alors en fait oui, hein, on a fait un prologue à la pièce parce que la pièce, en fait ce spectacle est pour nous le troisième volet d'une suite de spectacles qui sont réunis sous un titre générique qui s'appelle Les années de cendre et qui tente de parler de notre monde d'aujourd'hui au travers du prisme de la guerre, comme si le monde, depuis son origine, n'était qu'une seule et même guerre entrecoupée d'instants de paix. Et au fond, quand on lit en effet l'Iliade, l'Odyssée, quand on lit Virgile, il y a une guerre à l'origine qui est la guerre de Troie et qui semble... Oh là là, pardon, excusez-moi, ça c'est vraiment très mal poli de ma part, mais bon, ça va sonner un moment tant que je ne le trouve pas.
Une guerre fondatrice.
Oui, c'est la guerre fondatrice, et non seulement c'est la guerre fondatrice, mais ce serait même pour eux presque comme l'origine du monde, quoi, le point de départ, le choc du début. Pardon, je coupe cette chose, voilà.
Le Big Bang.
Voilà, le Big Bang. Et donc, ce Big Bang aurait comme ça perduré. Il y a une chose toujours amusante, c'est que la pièce, Racine dit que la pièce se passe à Butrot. Butrot, c'est une petite ville du sud de l'Albanie. On peut aller visiter les ruines de cette ville ancienne. Et il dit que ça se passe à Butrot. Et Butrot, donc, c'est au sud de l'Albanie. Et ça appartient à ce qu'on appelait, il y a longtemps, l'Épire, qui est maintenant coupé en deux entre le sud de l'Albanie et le nord-ouest de la Grèce. Mais ce qui est très étrange, c'est que jusqu'en 1992, la Grèce et l'Albanie étaient en guerre parce que les Grecs voulaient récupérer Butrot. Or, la pièce de Racine, c'est bien les Grecs réunis qui viennent voir les Épirotes en leur demandant de tuer un enfant qui n'a pas été tué au moment où il devait être tué, le fils d'Hector et d'Andromaque, Astyanax. Et comme cette option ne se réalise pas, alors c'est la guerre entre la Grèce et l'Épire. Donc, au fond, on peut bien penser que depuis la mythologie, c'est-à-dire à peu près 13 siècles, puisque la guerre de Troie, elle est en gros située 13 siècles avant Jésus-Christ, voilà, jusque 1992, c'est bien la même histoire qui se prolonge.
Mais la pièce est quand même dans un entre-deux-guerres. C'est ce que vous souhaitez établir, à la fois avec les costumes, avec C'est peut-être ce que nous écoutions tout à l'heure, Joséphine Baker, avec les bruits de fond, les tapis sonores, il y a des avions qui bombardent, différentes choses. Donc, ce prologue, au début, introduit, puisqu'effectivement, cette dimension échappe sûrement aux spectateurs contemporains, donc des premiers propos qui sont sonorisés. Moi, j'ai eu peur quand ça a commencé, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut être une pièce sonorisée. Ouf, on entendait ensuite bien les acteurs parler sans l'aide d'un micro, sans cette assistance. Un petit peu des pas de danse qui sont exécutés sur un coin de la scène. Et puis ensuite, la pièce commence elle-même avec Phénix qui, avant d'incarner Phénix, a encore une sorte de long discours pour introduire. Ensuite, la pièce commence avec Oreste qui arrive sur scène. Et cette pièce, on le résume comme ça, Gérald, de cette sorte de triangle amoureux qui est une sorte de triangle amoureux à quatre, en quelque sorte.
Réaction en chaîne, plutôt. Oui.
Réaction en chaîne, nous parlons tout à l'heure de l'affinité élective. Maud, est-ce que vous pourriez aller comme ça? Interrogation écrite, résumer l'histoire. Non, j'en prie, ou Frédéric. Est-ce que c'est nous pourrions peut-être évoquer quelques mots
c'est, ouais. Donc c'est la chaîne, on prend ce parti-là de dire que Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. C'est ça, on pourrait dire.
Donc le triangle amoureux serait Hermione, Oreste et puis Pyrrhus. Triangle amoureux puisque tous les trois s'aiment plus ou moins tous les trois entre eux, mais il y a la figure d'Andromaque qui est à l'extérieur, et cette figure qui est le titre de la pièce, néanmoins ce n'est peut-être pas le personnage, enfin comment dire, pas tant le plus important, mais le personnage le plus dans l'esprit de Racine. C'est ce que vous disiez à l'instant, Frédéric Constant.
Ben, est-ce que je, après justement Maud racontera aussi la chose, c'est que l'histoire elle est compliquée, pas compliquée en effet, voilà, il y a des gens qui se courent après et qui ne s'aiment pas, et il y a une deuxième chose qui moi me paraissait très importante, c'est que en effet tous ces gens-là, on sort d'une guerre qui est sûrement, c'est pour ça que moi je l'ai placé après la Première Guerre mondiale, mais qui est une guerre mondiale parce que tout le monde connu des Grecs à l'époque participe à cette guerre d'un côté, soit du côté troyen, soit du côté des Achéens, puisque ils ne s'appellent pas Grecs encore à l'époque, puisque ils ne sont pas unis, ils ont même pas le même calendrier entre chaque ville, donc c'est vraiment un temps très particulier. Mais en tout cas, voilà, c'est un cataclysme, ça dure 10 ans, tout. Presque tous les participants en meurent, très peu en réchappent, et ceux qui en réchappent vont mourir dans les années qui vont suivre la fin de la guerre, quoi. C'est une génération entière disparaît, et même le monde change. Et c'est pour ça que là encore, je l'ai placé à l'entre-deux-guerres, parce que je crois qu'en effet, 14-18 est une bascule totale entre le monde ancien et le monde moderne, c'est-à-dire que tout à coup, la technologie, la révolution industrielle, tout a trouvé sa résolution au milieu de cette guerre, et le monde va définitivement changer. Et d'ailleurs, on passait, puisqu'on avait une espèce de carte blanche à Chambéry la semaine dernière, puisqu'on joue à Chambéry, moi j'avais demandé à ce qu'on voit, à ce qu'on passe la grande illusion de Renoir, parce que c'est exactement la même chose que raconte Renoir. Le monde bascule, c'est un autre monde qui démarre au début du 19e siècle, comme c'est un autre monde qui démarre après la guerre de Troie. Oui, voilà. Donc c'est la même chose. Et après la guerre de Troie, c'est un autre monde. La mythologie va plus ou moins s'écrouler après ça. Voilà. Alors c'est pas la guerre de Troie de 13 siècles avant Jésus-Christ, mais la guerre de Troie racontée 5 siècles avant. Voilà. Enfin 8 siècles avant, très exactement, par Homère. Le monde va changer petit à petit. Il va aller vers son ère. Voilà, un peu plus son évolution. Voilà. Le monde bouge littéralement. C'est ça qui me semblait important de raconter à travers cette histoire. C'est-à-dire d'un côté l'histoire d'amour, de l'autre côté cette histoire-là, et donc un prologue, parce que je me disais qu'il était important, d'une, c'était pour nous garder la trace des deux autres spectacles qu'on avait déjà montés mais qu'on ne pouvait pas présenter, et deuxièmement, peut-être aussi, comment dire, non pas expliquer aux gens ce qui s'est passé, mais donner l'impression que ce qui nous a précédé était une chose terrible. Donc on raconte, en effet, la guerre de Troie qui s'est produite juste avant le début de la pièce. Et disons que ce prologue ressemble à un chœur antique, voilà, il y en a qui dansent et il y en a qui chantent ou qui parlent.
Mmh. Voilà. C'est cette parole très importante, me semble-t-il, pour qualifier cette guerre. La guerre commence avec un sacrifice, celui d'Iphigénie, une jeune fille, il faut insister sur le terme de jeune, puisque la guerre se termine avec une sorte d'autre sacrifice pour non plus une jeune fille, mais plutôt même tout jeune garçon, Astyanax, qui est précipité des murs de Troie par Ulysse. Et non, en fait, Astyanax n'est pas mort. Je ne sais pas comment encore parler de ce spectacle plus précisément. Donc j'évoquais tout à l'heure les costumes, peut-être parler des acteurs. Enfin vraiment, vous parliez à l'instant, vous prononciez ce terme, Frédéric Constant, de carte blanche. Vous avez carte blanche pour présenter Andromaque en quoi 5-10 minutes, un quart d'heure même, je vous en prie. Maud Narboni, qui est vous aussi présente ici. Je ne sais pas, en termes d'alexandrin, l'histoire, l'entracte, je ne sais pas comment les évolutions sur scène, cet Oreste qui paraît parfois bien illuminé, il y a des choses qui. Moi, j'ai été assez emporté par ce spectacle auquel j'ai assisté hier soir. Ça marche bien, c'est vraiment très bien. C'est Andromaque qui, pour le coup, enfin. Ça peut paraître un peu ancien, c'est cette chose. Gérald, toujours pas la date, 1640-50, quelque chose comme ça. Donc là, je parle trop, je vous en prie. Comment parler encore de cette pièce, Frédéric Constant, Maud Narboni, vous qui êtes ses fils, un petit rôle important.
Oui, enfin...
C'est vous qui ouvrez l'acte 5. Ah, enfin, formidable, tout va bien marcher.
Ça va vous parler du moment, bon...
Alors un autre moment, un autre. Songe, ces filles, à cette nuit cruelle.
Non, mais vraiment, voilà, donc ce sont des survivantes. On s'est beaucoup interrogé aussi sur ces filles, parce qu'elles ne parlent pas. Pendant très longtemps, elle est présente, mais elle ne parle pas. Et donc, on s'est raconté ça, que c'était sans doute, effectivement, comment on continue à vivre après avoir vu tout ça, pourquoi, comment on avance, voilà. Et voilà, bon, après, on a pensé à des témoignages de gens qui ont traversé des guerres, et voilà, on s'est redit. Et quand elle parle, je ne sais pas si on peut dire qu'elle accouche Andromaque, comme la plupart du temps les personnages, enfin les suivants des tragédies, mais oui. En tout cas, elle souhaite que ce soit sa décision de décider de vivre, hein, quoi, et de sauver son fils et d'accepter la proposition de Pyrrhus. C'est-à-dire de se marier avec lui et de. Alors, ce qui paraît invraisemblable à Andromaque, puisque c'est renoncer à. Comment dire, c'est pactisé avec l'ennemi, avec le monstre, avec le monstre sanguinaire qu'il a été.
Le fils,
le bourreau de sa famille.
L'assassin de son mari.
Et de son père, et de ses 7 frères, et de 3. Ouais, donc voilà. Donc c'est assez complexe. Et à un moment donné, ses fils voient le danger et décident de parler, de la secouer, de lui dire il faut y aller là. Il y a une porte, il y a une possibilité de s'en sortir. Voilà.
Je vous remercie d'avoir donné cette clé parce que je les évoquais. Là, je ne sais pas si un auditeur attentif pourra tout comprendre, mais je suis convaincu que nous avons donné les différents éléments du puzzle pour reconstituer l'histoire. Vous êtes Céphise, vous êtes Maud Narbonnier, vous incarnez, vous jouez à Céphise qui est une suivante. Je les ai nommés tout à l'heure les 4 suivants. Pylade, qui est le suivant d'Oreste, Phénix, qui est le suivant de Pyrrhus. Il y a donc Cléone, la suivante d'Hermione, et puis Céphise, la suivante d'Andromaque. Donc ce sont 4 rôles qu'on pourrait qualifier, forcément, en termes d'importance de texte et puis de rôle. Des personnages moins importants, des personnages mineurs, mais qui, par ce rôle de suivant, permettent, le terme m'a semblé très très bon, permettent d'accoucher, permettent de faire prononcer à la personne qu'ils suivent, donc différents discours, leur permettent de tenir différents propos. Et d'ailleurs, c'est intéressant, peut-être une question alors pour vous, Frédéric Constant, pourquoi un 9e rôle ? Un 9e rôle qui est un rôle muet, une personne qui suit régulièrement, je crois qu'il suit-il davantage Oreste ou Pylade ? Il me semble qu'il suit davantage Oreste.
Parce que si, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre le livre, dans votre intégrale que vous avez, mais normalement il y a soldats d'Oreste. Ils sont plusieurs, là il n'y en a qu'un. Bon, les moyens sont plus réduits. Il y en a qu'un, mais je me disais il fallait essayer de se poser la question. Et donc il y a un personnage absolument muet, lui, qui ne dit vraiment rien et qui est là à certaines scènes et qui pourtant agit. J'ai voulu respecter cette part de la distribution proposée par Racine, au même titre que la scénographie est inspiré très lointainement quand même, mais est inspiré de la scénographie de la deuxième, de la reprise de la pièce, où il est décrit qu'on voit une suite de colonnades avec au loin la mer sur laquelle il y a des navires. Et donc, c'est ce que les spectateurs peuvent voir, en tout cas dans le spectacle, il y a bien des navires de guerre au loin sur la mer. Il n'y a pas de colonnade, mais enfin, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je m'étais vraiment dit que je voulais que les 8 personnages soient 8 personnages. C'est-à-dire que le terme de suivant, qui est en effet un terme juste, malgré tout, est pas totalement vrai, parce que Pylade, c'est en fait le cousin d'Oreste, et il n'y a pas de pièce avec Oreste sans Pylade. Je veux dire, chez les Grecs, il y a toujours Pylade. Mmh. Et Pylade, c'est même celui qui aide Oreste à tuer sa mère. Parce que l'Oreste qui rentre, là, dans la pièce, c'est un type qui vient de tuer sa mère. Donc c'est quand même quelqu'un qui a déjà, en effet, vous disiez, illuminé, il a déjà beaucoup voyagé. Et pourtant, et c'est là où ça devient très, très important, c'est qu'il parle, il a déjà tué sa mère, Racine est très sibyllin sur cette chose-là, mais il en donne quelques indications, et pourtant, ce type, au milieu de la pièce, va parler de son innocence. Donc c'est une chose très importante, mais ça veut dire qu'il a déjà eu, comme dans l'Orestie d'Eschyle, il a eu un jugement et il a été déclaré innocent, c'est-à-dire que pas responsable de l'acte qu'il avait commis. de tuer sa mère. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Phénix, lui, est un personnage dont Homère parle dans l'Iliade. Il existe, il est conducteur de char, il a été précepteur d'Achille et précepteur de Pyrrhus, c'est-à-dire du père et du fils. Donc, c'est un personnage, je dirais, historique ou homérique. Après, en effet, et ses fils et Cléone ne sont pas, eux, sont des personnages inventés pour le bien de l'histoire. Mais moi, j'ai vraiment voulu de se dire, il y a 8 personnages. Et ces 8 personnages ont chacun des raisons d'agir et des raisons d'être là et de fonctionner à l'intérieur de ce lieu. C'est pour ça que c'est vrai que, par exemple, dans le rapport entre ces deux survivantes, Andromaque et ses filles, pour moi, il y avait deux points de vue qui sont même encore aujourd'hui entendables. Il y a le point de vue d'Andromaque qui est le devoir de mémoire, mais la dissolution dans la population, c'est-à-dire on se souvient, mais on disparaît doucement, et la proposition de ses fils qui est non, au contraire, on essaye de reconquérir le pouvoir, et une fois qu'on a le pouvoir, on retourne l'histoire dans l'autre sens et on se remet, on se venge.
On se venge, oui.
Voilà.
La dialectique du bourreau et de la victime, alors un peu.
Oui,
option.
Oui, c'est-à-dire que, oui. Bah, c'est-à-dire que oui, il y a ceux qui disent, voilà.
Guerre. Oui, il y a ceux... au thème de la guerre qui...
Bien sûr, mais c'est un moteur, du coup, chez ses fils. En tout cas, elle est vraiment dans la vie et dans le... Dans... Elle essaye de retourner la situation. Comment...
Et je repense encore à ces mince, je vais les nommer les suivants. Cela est très perceptible sur scène. On le voit bien dans. Je ne sais jamais justement comment nommer est-ce bien cela, la mise en scène. Le fait que, par exemple, dans un passage, Hermione s'adresse à Pylade, mais ce sont des propos, me semble-t-il, dans le texte qui sont clairement adressés, d'ailleurs, on le sait, qui sont clairement adressés à Oreste. Mais à ce moment-là de la pièce, il me semble, c'était, je crois que c'est l'acte 4, Oreste a déjà quitté la scène, et donc Hermione s'adresse à Pylade et donc lui confère une importance, puisque c'est bien à lui qu'elle s'adresse, alors que le texte initial ne le montrait pas. Donc, et puis je pense également à Phénix qui a ce long discours prologue avant que la pièce commence. Je pense à un effet vidéo avec ses fils qui lui confère quand même une grande importance parce que ce passage est un peu long. Enfin, je sens que ça dure 10 minutes, c'est quand même, il y a une certaine longueur et puis c'est.
Effectivement, ça donne une dur. Résolution et ça fait le personnage aussi de ses fils. Ça donne la clé.
Oui, oui, je crois que c'était. Il me semblait. Alors, en effet, c'est vrai qu'il y a des. La scène dont vous parlez de l'acte 4, c'est en effet une scène où il n'y a que Cléone, Hermione et Oreste. Et c'est vrai que j'ai remis Pylade et le soldat parce que pour moi, c'était la scène où tous les Grecs sont réunis et c'est le moment où ils fomentent le complot. Et donc, on voit comment un complot se fomente. Et c'est vrai que je trouve que ça ne déjoue pas la pièce. Je trouve que ça augmente et la position d'Oreste dans le fait qu'il est coincé dans une position un peu insurmontable. Et puis, la manipulatrice, tout à coup, que apparaît être Hermione, qui est un personnage. C'est pareil, si on regarde bien, Hermione, c'est la fille d'Hélène. Hélène, c'est la plus belle femme du monde. Moi, je crois que être la fille de la plus belle femme du monde, c'est invivable. Et donc, voilà. Et c'est ça que je voulais faire apparaître. C'est cette notion-là. C'est vrai qu'au fond, moi, ce qui m'a donné aussi envie de monter cette pièce, c'est que souvent, en ayant vu des pièces de Racine, il y a deux choses. Il y a d'une, l'histoire qui est racontée, deux, le poème. Et très souvent, le poème est mis en avant et on se dit que le poème fait tout. Moi, je crois pas que le poème fasse tout. Je pense qu'il y a des moments où il est trouble, il est complexe. Et donc, je me disais, non, il y a deux choses. Il y a une histoire, il y a des gens, il y a des êtres humains, et puis il y a la façon dont ils parlent. Et c'était d'essayer de mettre ça à la même valeur pour qu'au fond, comment dire, l'essence sortent, jaillissent, apparaissent, voilà, se fassent entendre, et qu'on puisse se dire qu'on n'entende pas ça comme un poème lointain qui nous est étranger, mais plutôt comme une chose où on se dise « Ah, mais moi, je pourrais être lui. » Ou elle.
Et en Alexandre.
Ah, et en Alexandre.
Merci,
voilà
Gérald.
La question. Voilà
merci,
comment voilà. Transmettre ce sens de la musique théâtrale de Racine pour que ça soit agréable et passionnant et qu'on puisse
quel est le sortilège moment. Comment vous avez réussi ça? Parce que ça marche. Les Alexandrins, ça peut être très compliqué. Et là, ça marche. Moi, je connaissais certaines des répliques. Je les attendais presque et je n'ai pas été déçu. Par exemple, notamment, je pense à celle-ci. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Moi, j'aurais volontiers fait la liaison. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle? Eh ben non. Et d'ailleurs, effectivement, il ne faudrait pas faire la liaison puisque c'est je t'aimais quand tu étais inconstant. Qu'est-ce que j'aurais fait si tu m'avais été fidèle? C'est Hermione qui s'adresse à Pyrrhus. Non, vous souhaitez me reprendre?
Ben non, mais c'est formidable. formidable ce que vous dites, parce que c'est justement comme ça qu'on a travaillé. C'est-à-dire que moi, j'ai au conservatoire, j'ai travaillé avec un professeur qui s'appelait Michel Bernardi et qui a, il s'appelle toujours d'ailleurs parce qu'il est toujours vivant. Il a même un blog et il a écrit un livre.
Le jeu verbal,
voilà. Et qui dit comment, enfin, il donne sa méthode pour dire les vers. Et ce que vous venez de dire, voilà, les césures. Et ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il dit, c'est pas je t'aimais inconstant, c'est je t'aimais quand tu étais inconstant, mais comme il a enlevé quand tu étais, il faut qu'on sépare. Je t'aimais inconstant, qu'aurais-je fait fidèle, puisque c'est pareil, qu'aurais-je fait si tu avais été fidèle? Parce qu'il y a une chose très particulière chez Racine, contrairement à mais ça dit, ça aide à dire tous les vers, mais, Corneille, Hugo écrivait en vers directement. Racine écrivait en prose et après il déplaçait les syntagmes pour faire des vers. Et ça c'est très important parce que ça veut dire qu'en effet il retirait des mots, il retirait des verbes.
Les ellipses.
Voilà. Et donc ces ellipses, il faut les faire entendre. Les ellipses, et en effet, voilà, vous avez exactement tout compris. Vous pouvez jouer de la tragédie dès demain.
Ouais.
Je t'aimais quand tu étais inconstant, quand tu étais inconstant à ses pas et a disparu. Et il faut montrer la trace de cette disparition. Je t'aimais inconstant. Et donc voilà. Et donc c'est ce travail-là qu'on a fait à tous. Pour essayer de parler tous de la même façon cette langue-là, comme si c'était leur langue.
Et ça marche super bien. Le songe ses fils à cette nuit cruelle, qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Il y a même le tout début de quel acte? L'acte 3, je crois, quand Pilade apparaît avec une vidéo. Modérez votre ardeur, Seigneur. Enfin, je ne sais plus, je ne vous reconnais plus. Et ça, c'est fait avec un effet. D'ailleurs, il y a eu quelques rires dans la salle. C'est vrai que c'était amusant pour le coup. Oui, il me semble. Voilà, il y a un effet humoristique. Oui. Le visage de Pilade apparaît tout déformé. C'est la lune qui se transforme en Pilade. Oui, enfin, on pourrait peut-être passer encore des heures ou alors peut-être encore une minute. Alexandrin, donc c'est un travail que vous avez fait avec ce texte, ce jeu verbal, bah, ça marche bien, parce que c'est ça qui est important, hein, la mise en scène, les costumes, tout ça, c'est très très, très bien, mais moi, grand maniaque que je suis, quand je vais voir une pièce, surtout une pièce française, de littérature française, je suis je suis sensible au texte.
Avant tout,
le texte, ça claque, les Alexandrins marchaient bien, il n'y avait pas d'effet de toc ou artificiel.
C'est l'essentiel du spectacle, finalement.
Bah, c'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas vraiment passer au travers, ou alors, si on passe au travers, on casse tout, c'est-à-dire que si on respecte pas les 12 syllabes, il y a un moment c'est mort.
Ça peut être même raté ou agréable à écouter, quoi.
Oui, ou alors c'est
tout le monde a déjà assisté à une pièce de théâtre classique de Sophocle ou de Racine, je sais pas quoi, en vers rimé, qui était mal dite et qui était insupportable au bout d'un moment.
Oui, bien sûr. Parce que tout à coup c'est un toc terrible. Là, c'est vrai que ça me paraissait important, et d'autant plus important que je crois que justement, parce qu'en plus la structure du texte donne, et des intentions de personnage, et un rythme de parole. Voilà, c'est autant d'appui, mais en même temps, c'est un travail quotidien, parce qu'on n'arrête pas de se dire et de se redire, attention, là, merde, t'as une césure, tu la respectes pas, là, t'as fait une liaison. Alors, c'est vrai que les liaisons, c'est plus compliqué, c'est, parce que des fois, on passe sur une intention de jeu, quoi. Parce qu'en effet, ça parle beaucoup, mais ils bougent, leur intention de jeu bouge à chaque vers. Donc, si on en rate une, on rate un virage pour le personnage et on perd quelque chose. Oui, puis on perd quelque chose dans la tension, dans ce qui est en train de se produire. Donc ça, c'est sûrement d'ailleurs puisque c'est le seul texte que j'ai vraiment monté dans ma carrière de metteur en scène. Si j'avais choisi celui-là aussi, c'est parce que voilà, ce pari-là m'intéressait, parce que là, je me disais là, il y a une vraie parole et cette parole, elle est importante pour le jeu des acteurs, et en même temps, il faut pas qu'elle soit son piège. Voilà. Donc, on bataille.
On bataille, vraiment.
Ah, mais pour
la chèvre et le chou.
Pour une grande victoire, je pense encore par exemple au premier discours, hein, discours d'Oreste et de Pyrrhus en réponse avec une tribune qui est amenée. C'est génial, c'est vraiment un effet de sonorisation, mais avec une sorte d'écho qui est créé. C'était vraiment, vraiment très, très fort. Non, ça marchait bien, ça ne paraissait pas artificiel. La seule chose qui me gênait, mais bon, ça, c'est, il faudrait en vouloir à Jean Racine, c'est ce terme de cruel qui revient un peu trop souvent. Enfin, trouvé. Et là, pour le coup, je trouve qu'il colle pas. Enfin, ce terme de cruel, il me semble un peu excessif, parce que là, ça fait basculer totalement cette histoire d'amour dans une sorte de.
Ben, changé de sens en trois siècles.
Hein, oui, cruel. Mais justement, le terme de cruel, c'est qui aime non pas tant avoir le sang couler, mais à faire souffrir. Mmh. Et là, enfin, je sais pas, ça me semblait un peu trop précieux. Enfin, du moins, je sais pas. Moi, ça m'a gêné. Vous le prononcez, mais c'est quand même normal, hein, puisqu'il est inscrit, dans le texte. Mais non, c'est tout marche bien. Frank Manzoni est impressionnant dans ce rôle d'Oreste qui bouge sur scène sans arrêt. À la toute fin, c'est impressionnant. C'est ce qu'on peut dire qu'il vire un peu fou. Hein. Ah, on en dit un peu. Mais bon, de toute façon, la pièce, on peut la lire. Hein. On peut la lire depuis quelques siècles.
On la connaît, en fait.
Oui, on la connaît. Mais voilà, mention spéciale, on pourrait nommer toute la distribution, y compris Benoît André qui incarne le soldat. C'est vraiment très, très bien. Qu'est-ce que nous pourrions écouter maintenant pour faire une ultime pause? Et puis ensuite, on laissera la place. Non, pas tout de suite. Pascal est presque dans les murs. Ouais, mais. Je ne sais pas. Oui, n'importe.
Le 18e. Un élève de Lully.
Un élève de Lully. Ah,
en plus, c'est les musiciens du Louvre, Marc Minkowski. Les musiciens du Louvre.
Le Louvre Grenoble, non, c'est ça, je crois.
Début, parce que tu le mets bien fort, hein. C'est un cluster. C'est sur les éléments.
C'est le tout début, c'est la première.
Donc, un cluster, c'est tout l'orchestre qui joue la même note au même moment et ça fait un. Comme on utilise dans le cinéma fantastique.
D'accord.
D'épouvante et tout ça, là. Au piano, là.
Et après, nous reprendrons toujours sur Radio Canu 102.2 de la bande FM à Lyon, radiocanu.org. Nous parlons de la pièce Andromaque qui est mise en scène au théâtre de la Croix-Rousse. Je n'ai encore rien indiqué. Sonia aurait pu me gronder un petit peu. J'aurais pu redonner l'adresse, la place Johannes Ambre, dans le 4e arrondissement. C'est forcément la Croix-Rousse. Numéro de téléphone, ça c'est très important. 04 72 07 49 49. Il est fastoche à retenir. 04 72 07 49 49. Il y a un site internet www.croix-rousse.com. Vous pourrez avoir tous les renseignements pour savoir comment obtenir encore une place sur tous les jours sauf lundi. Relâche le lundi 7 avril, mais ça continue jusqu'au vendredi 11.
On écoute à 20h précise.
20h précise, 20h pétante.
Ah, attention, sauf le samedi 19h30 le dimanche 15h.
Ah oui, voilà. Ce n'est pas tous les soirs à 20h. Dernière pause et puis un dernier temps de parole et il faudra terminer l'émission. C'était Marc Minkowski, Gérald, je t'en prie.
C'était un compositeur du 18e. Je ne suis pas très fourni dans ma discothèque en 18e. Et un truc que j'avais trouvé d'occasion par un mélomane, visiblement. J'ai même son nom, son adresse. Il comprenait tout.
Alors, qu'est-ce que c'était?
Le Diapason d'or 1993, Choc de la musique, Jean Ferry Rebelle, 1666-1747. Et c'était Les éléments.
Les éléments.
Un morceau de 23 minutes sur les éléments.
Et donc.
Et c'était un élève de Lully, et la fin du CD d'ailleurs, c'est le tombeau de Monsieur de Lully.
Dirigé par Marc Minkowski avec.
Les musiciens du Louvre.
Les musiciens du Louvre. Frédéric Constant, Maud Narboni, quel propos encore tenir à la fois sur cette pièce ou même sur d'autres pièces? Est-ce que vous avez donc terminé une tétralogie, c'est ça, sur cette dimension contemporaine, enfin je sais pas comment la nommer, sur la guerre, et puis d'autres projets vont arriver?
Alors non, elle n'est pas terminée, non, justement. Pas terminée. Il nous reste maintenant à faire la suite, c'est-à-dire le 4e volet qui devrait s'appeler Astyanax Voix Rouge et qui est donc la suite d'Andromaque avec des révélations incroyables.
Mais d'où vient ce texte? Qu'est-ce que c'est que ça?
Qui l'a écrit?
Eh bien, personne l'a écrit pour le moment parce qu'il est encore dans nos têtes, mais il devrait. Wow. C'est un spectacle, ouais, comme le reste de nos spectacles, voilà, et qui se veut être un mélange entre d'abord de partir de la fin d'Andromaque qui se termine de façon très ouverte, puisque Andromaque va régner sur le peuple qui a détruit son peuple, avec cet enfant Astyanax. Et donc on s'est dit, mais alors qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Et la guerre éclate entre les Grecs et les Épirotes, entre les alliés d'hier.
Vous avez des sources, c'est pas Homère qui traite ça, non?
Ah non, personne ne le traite.
Ah,
d'ailleurs,
inventé.
Ça s'arrête là, normalement. Donc maintenant, nous allons, nous, chercher à raconter la suite, c'est-à-dire à imaginer 18 ans plus tard, le petit Astyanax va devenir roi d'Épire. Voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, ouais. Avec d'autres petites choses, parce que il se trouve que il y a un livre de d'Ismaël Kadare qui raconte l'année 1913 en Albanie, qui est une année absolument folle, puisque 14 armées se battent sur ce petit territoire. Et donc il y a il y a à peu près tous les pays d'Europe qui sont là-dedans. Il y a des armées qui sont
avant
payées.
La Première Guerre mondiale, ils ont dit.
Oui, 1913,
début,
en fait. Oui, voilà.
C'est comme la guerre d'Espagne avec la Deuxième Guerre mondiale.
Non, là c'est 14 armées qui se battent, ouais. Et on dit même qu'il y en a une qui a la peste. Et que donc aucune autre armée ne les affronte parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir en les combattant. Et donc ces armées circulent, voilà, et il raconte, ça s'appelle l'année noire de Ismaël Kadare, il raconte cette période-là. Et dans la même période, et ça on peut aller regarder sur Wikipédia qui est une source d'information très discutable, il y a un clown allemand qui s'appelle Otto Witt et qui est parti avec un avaleur de sabre qui s'appelle Max Slepschig. Otto Witt est mort en 1953. Et ils ont réussi, pendant 3 jours, à être les chefs de l'Albanie. À usurper le... Voilà. Ils ont créé un harem. Ils ont piqué la moitié de l'argent. Et ils ont déclaré la guerre à je ne sais pas quel pays. Voilà, et ils sont partis. Donc c'est une histoire absolument incroyable.
Ils ont pu faire ça dans ce pays.
Ils se sont fait passer parce que vous savez, ce pays était sous l'emprise de l'Empire ottoman, et donc ils ont réussi à se faire passer pour des émissaires du pacha, et donc ils ont réussi à usurper le pouvoir. Voilà. Donc ces multiples histoires qu'on va essayer de mettre dans une seule et même.
Quand est-ce que cela arrivera prochainement sur vos écrans ou sur vos scènes?
Quand nous aurons trouvé l'argent.
Ah, je crois que c'est Aurélie Filippetti qui est restée à la culture. Aurélie, si vous nous écoutez, Madame la Ministre,
c'est le moment.
Nous cherchons des fonds. Nous cherchons des fonds pour la compagnie Les Affinités Électives, un spectacle qui a l'air assez génial. Qu'arrive-t-il à Astyanax, le seigneur de la ville, qui devient, est-ce que c'est facile à faire, il devient roi pour le meilleur et pour les pires.
Voilà.
C'est très nul. Oh, c'est mauvais comme tout.
C'est une bonne conclusion.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Le blues et canu va commencer. Qu'est-ce qu'on fait? On met le générique et puis on se dit au revoir, Gérald.
Ah oui, on parlera d'exposition plus tard peut-être.
Ah ben, on le fera une autre fois. Il y a les nuits de Fourvière, il y a plein de choses qu'on s'était dit que nous dirions.
La mode au CHRD jusqu'au 13 avril, Expo Vaudou au musée africain de Lyon. J'en conseille 2 pour l'instant.
Ah, moi je n'ai pas l'autre.
Et puis il y a Georges Rousse le 4 avril au Conseil Général, le grand truc moche de Ports en Parc en Tramont-Rocher là.
Bien, rendez-vous.
Très belle expo.
Rendez-vous sur le blog de Spectaculaire de l'émission pour avoir des précisions. On va donner tout ça, Gérald. Eh bien voilà, Gérald s'est déjà levé, il s'est barré. Attends, n'est-ce pas toi qui avait dit il faudrait un temps où nous disons au revoir? À la Giscard d'Estaing en quoi? C'était 80, c'est ça? Au revoir. Donc merci beaucoup Philippe. Frédéric, j'allais dire Philippe Faure, c'est terrible, hein, ça fait quand même quelques années. Merci beaucoup Frédéric Constant, merci beaucoup Maud Narboni. On vous souhaite une bonne suite de représentations. Ça a bien commencé hier,
oui.
Vous étiez content. C'est un spectacle un peu rodé déjà, non? Vous l'avez.
Oui, on l'a créé au mois de janvier à Bourges, on l'a joué à Brest, on l'a joué à Chambéry. Et là, voilà. Oui, non, il est récent.
Il a 2-3 mois d'existence.
Oui, oui.
Bien, on lui souhaite une bonne suite et on souhaite aussi avoir la suite. Astyanax, il y a un titre déjà?
Oui, ça s'appelle Astyanax, Voix Rouge.
Oh là là. Restez à l'écoute de Radio Canu. Les bandes continues vont reprendre et puis surtout le blues et canu de Pascal va commencer également. Bon après-midi à tous. Rendez-vous sur le blog et puis la semaine prochaine. Et puis c'est tout. Salut tout le monde.
Merci, au revoir.